Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars, hein, si je ne m'abuse, 2017. C'est Clotilde Seille en votre compagnie dans le studio de Canal M pour vous présenter les paractualités du jour avec les titres. À Boisbriand, le Premier ministre visite une entreprise qui développe et commercialise des robots pour aider les personnes vivantes avec un handicap. Le lancement d'un recueil visant à favoriser l'accessibilité dans les espaces publics extérieurs au Québec. Et également, aujourd'hui à l'émission, les vins de l'espoir, donc espoir avec un S majuscule et un P majuscule pour sclérose en plaques. Les vins de l'espoir 2017 a célébré en grand les produits du terroir. Et puis nous parlerons de ces enfants qui fréquentent le centre de réadaptation Estrie, le CRÉ, qui peuvent maintenant développer leurs habiletés et faire leurs apprentissages dans un escalier interactif. Également à l'émission, l'ONF à l'ère de la réalité virtuelle en Acadie, La Troisième Roue, c'est un film, est en plein tournage. Et en France, Paris lance de nouvelles mesures pour les personnes handicapées. Deux entrevues aujourd'hui. Nous allons faire connaissance avec la Maison des greffés de Montréal, dirigée par Micheline Siraslin. Et puis aussi, nous allons nous entretenir avec Locke Cory, le directeur du regroupement québécois pour le parrainage civique, avec une nouvelle capsule vidéo à propos du jumelage. Deux jours après le dépôt d'un deuxième budget de son gouvernement qui n'a guère suscité d'enthousiasme au Québec, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, écrit Benoît Bilodeau, a tenu à promouvoir l'un des éléments que celui-ci comporte. Et c'est dans les Basses-Laurentides, chez Kinova Robotique à Boisbriand, qu'il a rappelé le vendredi 24 mars que le budget du ministre Bill Morneau garantit entre autres choses des investissements massifs en innovation et en formation de main-d'œuvre qualifiée. C'est donc en compagnie de Charles Deguire et Louis-Joseph Caron-Lécuyer, les deux cofondateurs de l'entreprise installée à Boisbriand depuis 3 ans, laquelle développe et commercialise des robots pour aider les personnes vivantes avec un handicap, mais aussi les chirurgiens et chercheurs pour qu'ils aient davantage de capacités, que M. Trudeau a visité dans un premier temps cette entreprise. Il a déclaré dans une courte allocution, M. Trudeau, « Les activités de recherche et de production qui sont réalisées ici ne visent pas seulement des applications industrielles, elles changent aussi de façon concrète la vie de personnes à mobilité réduite. Les Canadiens sont parmi les plus intelligents, travaillants et ambitieux du monde entier. Nous leur devons de faire tout ce que nous pouvons pour appuyer l'innovation et la croissance. » C'est comme cela que nous les aiderons à être plus confiants face à leur avenir. C'est comme cela que nous bâtirons une économie qui fonctionne. Si l'heure n'était pas aux annonces officielles, Charles Deguire a tout de même laissé entendre en entrevue avec nos hebdos d'ici que son entreprise compte bien profiter, des mesures prévues dans ce budget 2017. Ce sont des programmes que Kinova Robotique compte utiliser, notamment pour développer notre usine de robots et pour agrandir notre centre de recherche, a fait valoir M. Deguire, dont l'entreprise compte 135 employés actuellement. Et puis le lancement d'un recueil visant à favoriser l'accessibilité dans les espaces publics extérieurs. L'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, publie aujourd'hui le recueil « Vers un parcours sans obstacle », élément à considérer pour favoriser l'accessibilité des espaces publics extérieurs. Il s'agit d'un recueil d'informations et de références utiles permettant de faire ressortir les principaux éléments à prendre en considération pour aménager des parcours sans obstacle. Cet ouvrage d'information et de référence est conçu afin d'accompagner les instances municipales. Il est question ici d'aménagement de la voirie et d'autres infrastructures, ainsi que de l'accessibilité des services qui sont de leur ressort. Le but recherché est que l'ensemble des citoyennes et des citoyens puissent se déplacer de façon autonome, sécuritaire et fluide. Également qu'ils puissent avoir accès aux modes de transport et qu'ils aient la capacité de s'orienter en se repérant aisément à partir de formes de signalisation appropriées. Nous vous invitons à consulter en détail le recueil « Vers un parcours sans obstacle », élément à considérer pour valoriser l'accessibilité des espaces publics extérieurs. Un menu convivial vous permettra d'accéder aisément aux différentes sections de ce document. Cela peut nous arriver à toutes et à tous, que nous soyons une personne vivant déjà avec, avec quelques difficultés, que ce soit un handicap visuel ou visible d'ailleurs ou non. Ça peut vraiment nous tomber dessus comme une tuile et dans ces cas-là, on aura bien besoin de cette maison. La maison des greffés, Lina Cyr, et j'accueille aujourd'hui Mme Micheline Cyr-Asselin qui en est la directrice. Bonjour Mme Cyr. Asselin.
Bonjour.
La maison des greffés, Lina Cyr, Cyr comme vous d'ailleurs, comme une partie de votre nom.
Oui, c'est ça.
C'est la famille?
C'est ma mère.
C'est votre maman?
Oui, c'est ma mère.
Et c'est votre maman qui a créé la maison des greffés?
Oui, tout à fait. Quand elle a eu sa greffe en 87, une greffe de foie, donc elle a réalisé par la suite que les gens qui venaient de région n'avaient pas d'endroit où pouvoir être hébergés à prix... exceptionnel.
Oui.
Donc, avec le médecin qui l'a greffé, Dr Pierre Dalloz, qui a fait sa greffe conjointement, on a démarré la maison des greffés en 1994.
Alors, qui accueille des gens, pas seulement, évidemment, après la greffe, après l'opération, parce qu'on pourrait penser ça, hein? On dit, oui. La maison des greffés, ça veut dire que ce sont les gens qui ont été opérés, qui vont comme une maison de convalescence. C'est en partie vrai. Mais ce n'est pas que ça, loin de là.
Non, pas du tout. La maison des greffés accueille les gens tout au long du processus de la greffe. Ce qui veut dire qu'ils doivent faire une évaluation prime abord, savoir s'ils sont éligibles à être sur la liste d'attente.
Bien sûr.
Ensuite, lorsqu'ils sont deux ou troisièmes sur la liste, vous savez que si ce sont des gens de région qui viennent à la maison des greffés, lorsqu'ils reçoivent le rappel, il faut qu'ils soient à 2 heures de l'hôpital. Donc, il faut que ça se fasse rapidement. Mais quelqu'un qui demeure en Gaspésie ou en Abitibi, ça serait trop loin. Donc, se rapproche des centres hospitaliers, viennent à la maison des greffés faire leur attente. Mm-hmm. Ensuite, reviennent faire leur convalescence et viennent pour les suivis par la suite.
Autrement dit, le service que vous apportez est un service complet parce qu'il faut que ce soit un service médical, un service humain aussi parce que ça ne doit pas être évident à vivre. Mm-hmm. Parlez-nous de tout cela, Madame Cyr-Asselin.
Pour les gens qui font leur attente à la maison des greffés, eux autres, ils doivent partir de leur région, s'en venir à la maison, attendre que le téléphone sonne. Donc, c'est important de leur donner un milieu chaleureux, puis un milieu familial aussi, où ils ne sont pas trop dépaysés, parce que c'est des gens qui partent de la campagne, qui viennent à Montréal. Pour eux, ça leur fait peur. Il y a aussi la fonction de ne pas savoir ce qui s'en vient par rapport à la greffe. Il y a beaucoup d'inquiétudes, de questionnements. Donc, ce qui est beau à la maison des greffés, c'est que les gens vivent toutes la même chose. Il y a des accompagnateurs, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ont reçu. Donc, ils sont capables de se parler, de parler des inquiétudes, de parler des réussites, parce qu'après la greffe, ils peuvent voir le résultat après.
Bien sûr.
Ça devient une seconde chance à la vie. Donc, ils peuvent voir des modèles vivants qu'une greffe peut fonctionner. Donc, c'est ça la beauté de la maison des greffés.
On parle souvent de la greffe du foie. Ça, c'est vrai que, bon, comme ce que votre maman avait subi, on parle aussi de plus en plus de la greffe cœur-poumon.
Oui.
Mais ce ne sont pas les seules greffes. Par exemple, il y a des gens qui se font greffer des yeux.
Oui,
témoin d'un doute.
La cornée.
La cornée, exactement. La cornée. Alors, ce sont aussi des gens que vous allez accueillir chez vous?
Absolument. Vous savez, une personne qui fait don de ses organes peut sauver 8 vies. Donc, il y a le pancréas, il y a le cœur, il y a le foie, il y a les poumons, il y a les reins, il y a la cornée. Il y a aussi la greffe de moelle osseuse et la greffe de moelle épinière. Donc, un donneur peut sauver plusieurs vies. Et il y a, je vous dirais, par rapport à l'attente, une personne qui attend des poumons peut quand même attendre de 6 mois à 1 an. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler, que les gens puissent signer leur carte de don d'organes pour pas que les gens attendent trop longtemps, et d'en parler à la famille. Ça, c'est primordial. Parce que si la famille dit non, il n'y en a pas de prélèvement. Donc, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser sa famille à nos dernières volontés, à nous.
Oui, bien sûr. Oui. Parce que si j'écris, par exemple, moi, mes dernières volontés, puis qu'il m'arrive quelque chose et que je dis « oui, prenez tout ce que vous voulez », ma famille peut intervenir et dire non, nous, on ne veut pas?
Oui, absolument.
Même si c'est signé par la personne?
Oui, mais c'est quand même la famille qui a le dernier mot. Parce que la personne est en mort cérébrale, donc c'est la famille qui prend la charge de la personne. Donc, si la famille... Vous savez, c'est un moment difficile pour eux, il faut comprendre. C'est un moment de deuil.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
Très difficile, que ce soit un enfant ou que ce soit notre papa ou notre maman. C'est
bien
un
sûr.
Moment qui est très, très difficile à vivre. Puis dans la douleur, bien, les gens peuvent dire non. Non, parce qu'ils ont toujours espoir que les gens vont revenir à la vie, malgré qu'une mort cérébrale, on s'entend qu'il n'y a pas d'espoir. Et il y a 2 médecins qui vont constater le décès avant d'aller voir la famille. Mais c'est vraiment de les sensibiliser, de leur dire, oui, ça peut être un moment difficile, Mais moi, je veux les donner, mes organes. Je veux que ça puisse donner la chance à quelqu'un d'autre de vivre.
Bien sûr.
Un papa ou un grand-papa ou une maman, ça peut être un enfant aussi. Donc, bien ça touche tous les critères des, ou
autrement
les âges.
Autrement dit, hein, Madame Siraclin, il faut à tout prix signer cette carte. Souvent, c'est par simple négligence. Ou... Oui. Est-ce que j'avais entendu un projet, à un moment donné, j'avais trouvé ça intelligent, c'était quelqu'un qui disait, au lieu de nous faire signer, demandons à ceux qui ne veulent pas de signer la carte. Mm-hmm. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si la carte n'est pas signée, on pourrait le faire.
Oui, mais il y a des provinces où ça se fait comme ça.
Ça se fait comme ça. Hein?
Mais au Québec, on commence à en parler de plus en plus, de pouvoir faire ce fonctionnement-là. Mais vous savez, ce sont des démarches qui sont très longues. Mm-hmm. Effectivement, ça serait mieux que les gens signent s'ils ne veulent pas donner. Okay. Automatiquement, si les gens n'ont pas signé, c'est automatique. On peut donner.
Alors, si une personne subit une greffe de cornée, par exemple, parce que j'imagine que le temps de récupération est plus ou moins long, mais vous assumez à la maison des greffés que cette personne-là pourra rester jusqu'à ce qu'elle est capable. En tout cas, c'est pas ça. Ça se mesure en combien de temps, à peu près?
On ne peut pas le mesurer. En mois, je vous dirais... Quelqu'un qui attend des poumons peut attendre de 6 mois à 1 an à la maison des greffés. Mm-hmm. La même chose pour un foie, la même chose pour un cœur. J'ai une dame qui est là en ce moment, qui attend un cœur, puis ça fait 8 mois qu'elle est à la maison des greffés. Donc, c'est plus... Vous savez, il y a le critère aussi du groupe sanguin qui rentre en considération. Quand on parle de poumons, on parle de la grosseur des poumons, parce qu'il faut qu'il ouvre la cage thoracique pour greffer les poumons. Donc, il faut que les poumons rentrent dans la cage. Il y a plusieurs choses qui doivent respecter les critères.
C'est assez incroyable, c'est fou. Hein.
Mais si vous saviez qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un après.
Bien sûr. Il
y a une qui est partie ce matin, c'est une dame qui vient de Saint-Ulrich. Elle a eu une greffe de poumon. Elle est à la maison des greffés depuis le mois de mai dernier.
Dernier, il y a un an.
Exactement. Puis elle a fait son attente, puis elle a eu sa greffe. Ça fait 3 mois que cette dame-là est greffée. Puis elle est repartie à la maison ce matin, heureuse. Tellement heureuse, tellement contente de pouvoir retourner à la maison, plus d'oxygène, de pouvoir faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant sa greffe.
Bien sûr.
Fait que c'est vraiment, vraiment une seconde vie.
Une
seconde vie.
Vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps?
On a 27 chambres en occupation double.
Ah!
Oui, et en plus, la maison était faite en fonction de la famille, parce qu'il y a souvent des gens qui doivent être hospitalisés d'urgence. On accueille la famille.
Ah, c'est fantastique.
Oui, parce que, vous savez, si je regarde l'hôpital Notre-Dame, ils sont à 5 minutes à pied.
Bien sûr. Le coût, j'imagine que c'est abordable, hein, vous disiez, parce que c'est vraiment pas pris en charge par le gouvernement du tout, ça?
Non. C'est 25 $ par jour, incluant l'hébergement et les repas.
Bon.
Oui. On doit faire des levées de fonds, parce que vous comprendrez que à ce prix-là, on peut pas.
Bien
la maison ne pourrait pas survivre.
Non, c'est
certain. Le ministère nous aide quand même à 60%, mais il faut vraiment aller chercher une partie. Fait que c'est là où nos levées de fonds embarquent.
Bon, alors là, je sais qu'il va y avoir, parce que là, il nous reste déjà plus énormément de temps, madame. Je m'excuse, mais c'était important quand même qu'on la présente bien, cette maison-là. Mais en quelques mots, si on veut vous aider en ce moment, où est-ce qu'on peut vous verser de l'argent?
Sur notre site Internet, c'est www.maisondesgreffesaupluriel.com. Il y a tous les événements de levée de fonds qui s'en viennent, que ce soit Gaspésie, Gatineau, le défi vélo cet été. Tout est là.
D'accord.
Les gens peuvent faire un don en ligne directement sur notre site Internet et c'est très, très facile.
Est-ce que vous avez besoin de bénévoles?
On a toujours besoin de bénévoles pour accompagner les patients à l'hôpital, tout ça. Fait que oui, les gens veulent... Notre numéro de téléphone est là et ça va nous faire plaisir.
Merci beaucoup, Madame Siraclin. J'ai été contente, au nom de tous les auditeurs, de faire un peu plus connaissance avec la maison des greffés ce matin. Alors, bonne continuation à vous toutes et vous
Merci
tous.
Merci de nous donner la chance de pouvoir en parler.
Ça fait plaisir, madame.
Merci.
Au revoir. Par actualité régionale, maintenant, les vins de l'espoir. Espoir écrit avec un gros S et un gros P, comme sclérose en plaques. Les vins de l'espoir 2017 a célébré en grand les produits du terroir. La soirée bénéfice Les vins de l'espoir a réuni producteurs, invités, ainsi que Monsieur Cocktail et vins au féminin qui ont tous deux agi. À titre de présentateur de la soirée, le 23 mars dernier à Brossard, Monsieur Cocktail a servi son fameux cocktail signature de la soirée à base de gin Ungava, produit québécois, alors que Vin au féminin a présenté son jeu de dégustation Vegas. Il y a des ateliers qui ont été également proposés sur la mixologie et la dégustation des vins avec une sommelière. Alors, grâce à l'appui de ses partenaires, la Société de la sclérose en plaques a tenu un encan silencieux qui s'est déroulé durant toute la soirée avec une multitude de lots à offrir. La nouvelle campagne pour financer la recherche sur la sclérose en plaques en collaboration avec Recettes en pot a été officiellement lancée et se poursuit en ligne. Alors vous pouvez aller à SP sur le lien SP Montérégie, évidemment il n'y a pas d'accent, SP comme sclérose en plaques Montérégie en un seul mot, point recettes en pot, recettes au pluriel, en pot au singulier, point com. La Tribune, Isabelle Pion a écrit ce papier tout récemment sur ses enfants qui fréquentent le centre de réadaptation Estrie, le CRÉ, qui peuvent maintenant développer leurs habiletés et faire leurs apprentissages dans un escalier interactif. L'espace conçu en collaboration avec l'organisme Mûrir offre aux enfants un lieu ludique, leur permettant de développer notamment leur motricité fine et leur langage. On nous montre par exemple la photo d'une adorable petite fille qui s'appelle Marie-Lee, qui est une petite japonaise qui a été adoptée par des parents en Montérégie alors qu'ils savaient très très bien qu'elle souffrait de surdité. Alors on voulait que les enfants oublient un peu qu'ils viennent en réadaptation pour travailler différentes problématiques, commente Julie Duguay, chef de service en déficience physique enfants et adolescents au CRÉ, qui a collaboré à la mise en place de cet escalier. L'espace coloré favorise les thérapies par le jeu dans un contexte où les objectifs en réadaptation sont souvent exigeant. Selon le CIUS de l'Estrichus, il s'agit du premier escalier interactif dédié à la réadaptation physique au Québec. Le projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 6 000 $ de la Fondation CRÉ et de 20 000 $ de son fonds Nancy Shields. L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs intervenants du CIUS de l'Estrichus et des partenaires financiers. Il y a une nouvelle vidéo en ce moment qu'on peut voir passer sur Facebook. C'est une vidéo dont je vais parler dans quelques secondes avec Locke Corry, qui est directeur du regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour, Monsieur Corry.
Bonjour, Clotilde.
Ça va bien, Locke?
Non, ça va pas, je suis malade.
Oh!
Mais je suis venu au bureau spécialement pour l'entrevue.
Oh! Bah alors ça, c'est gentil.
Oui, ouais, je suis comme ça.
Bon, je vais vous donner une petite minute de répit parce qu'on va écouter le début de cette vidéo-là que nous sommes allés rechercher sur Facebook. Ça
pas
vous
de
va?
Problème.
D'accord.
On mise sur une relation privilégiée entre un bénévole puis un filleul.
Qui se veut sur une base volontaire, donc c'est un citoyen qui est bénévole.
On veut favoriser l'intégration et l'implication sociale des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Le parrainage civique se démarque énormément dans le réseau parce qu'il permet aux membres filleuls, en fait, d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est strictement là pour lui. Donc, en dehors du réseau familial, en dehors également des intervenants.
Le jumelage permet à une personne qui vit avec une déficience intellectuelle de s'intégrer davantage dans la communauté, de s'impliquer.
Alors, Dieu sait si c'est important, ce jumelage. Et Locke, on vous remercie beaucoup d'être allé au bureau malgré cette grippe, j'imagine, pour nous parler.
Je vais bien quand même, je vais bien.
En tout cas, la voix est bonne.
Oui, toujours, toujours.
Alors, Locke, c'est donc une nouvelle capsule vidéo à propos du jumelage. Elle est d'ailleurs très, très bien faite. Avant de parler spécifiquement de jumelage, remarquez, c'est le cœur de votre mission,
oui.
Mais je voudrais quand même que vous rappeliez la mission générale de cet organisme.
Alors nous, au niveau du regroupement, c'est donc de représenter le parrainage civique à travers le Québec, donc mm-hmm. en faisant la promotion du mouvement, défendre le mouvement et soutenir évidemment tous les organismes de parrainage civique au Québec. Et le parrainage civique, donc c'est le jumelage d'un citoyen bénévole avec une personne vivant avec des incapacités. Et par cette relation de jumelage qui tend à devenir une amitié, on tente modestement justement de développer le pouvoir d'agir de la personne vivant avec une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale ou un problème physique.
Mmh. Alors justement, j'entendais ce matin dans la vidéo une jeune femme qui disait qu'elle accompagnait une personne vivante avec une déficience intellectuelle et qu'elle lui apprenait, entre autres, à utiliser les transports en commun. C'est donc un fantastique voyage vers l'autonomie que vous proposez avec ces jumelages-là.
Ben, c'est ça. On essaye de leur faire développer leur pouvoir et leurs droits de citoyen. Mm-hmm. Tout ce qu'ils ont accès dans la société, qu'ils ne font pas par peur, par crainte de la société qui ne les inclut pas. Donc, par le biais d'un jumelage, la relation de personne à personne aide, favorise un certain confort, une certaine sécurité, une certaine confiance qui se développe au fil du temps, au fil de la relation.
Bien
et
sûr.
Donc, ça permet de faire des petites choses pour nous, mais des grandes choses pour eux.
Oui, et alors les gens que nous entendons dans cette vidéo, ce sont vraiment des gens qui, comment vous les appelez, des parents?
Eh bien, en fait, on a voulu en fait interroger les acteurs du mouvement qui font le jumelage au quotidien. Eh bien non, ce sont en fait les intervenantes et quelques directeurs du mouvement qui ont été interviewés dans cette vidéo.
D'accord.
Et on voit qu'à la fin, notamment donc Stéphanie, qui est marraine de Karl dans la vidéo depuis 4 ans, mm-hmm. est directrice maintenant d'un organisme de parrainage civique. Mais donc elle a développé une relation d'amitié avec Karl, voilà, 4 ans, mm-hmm. et donc est maintenant directrice au sein de notre mouvement. Mais
d'accord.
non, ce sont les personnes qui réalisent le jumelage, donc les
d'accord.
intervenantes, les directeurs, qui nous expliquaient que ce qui était beau dans le jumelage, ce qu'ils voyaient eux au quotidien quand ils réussissaient à faire un jumelage ou quand ils faisaient des suivis. Donc on a voulu laisser ça un peu flou, mais ce sont des travailleurs au sein du mouvement.
En tout cas, ça doit être tellement gratifiant. Hein?
Oui, c'est ça. On voit qu'il y a une certaine... Pour du communautaire, ce sont des personnes qui sont là depuis quand même pas mal d'années maintenant au sein du parrainage civique, ce qui est quand même assez rare, comme je vous l'ai dit, pour du communautaire.
Mais oui.
Et elles aiment ce qu'elles font. Et on sent que... On n'en produit pas beaucoup de nouveaux jumelages, malheureusement, assez peu comparativement à la liste d'attente que nous avons actuellement, puisqu'il y a au moins 800 jumelages en attente au Québec. Dès qu'un jumelage est fait, l'annoncer, que ce soit aux bénévoles ou à la personne filleule, c'est toujours apparemment pour ces intervenantes quelque chose
bien
de jouissif.
Bien sûr. Alors, on a besoin de parrains, hein? On a besoin de parrains. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup de femmes. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes?
Je
ne sais pas. Parce que...
Au niveau des bénévoles, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus de femmes au sein de notre mouvement. Après, même au niveau des
parrainages.
Des organismes, des employés, c'est sûr qu'il y a pas mal de femmes dans le mouvement. Mais regardez, je suis là, moi, je
Ben oui, non, mais c'était... oui, non, mais c'est sûr, Locke, mais c'est parce que tantôt, ça ne m'a pas échappé, quoi. Vous parliez vous disiez elle, c'est pour ça. Dites-moi, les gens intéressés, ils vous contactent comment et qu'est-ce que vous leur demandez? Parce qu'évidemment, ça prend des gens quand même relativement fiables. On ne peut pas laisser une personne qui vit avec une déficience intellectuelle entre les mains de, si vous me permettez l'expression, n'importe qui.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, si possible, enfin, c'est pas si possible, c'est obligatoire, pas de casier judiciaire.
Oui.
Mais évidemment, avoir du temps à donner.
Oui.
Nous, ce que l'on demande, c'est juste du temps.
Ouais.
Donc ça va dépendre des organismes, mais c'est en moyenne 2-3 heures par mois, un rythme toutes les 2 semaines.
Ah oui, en effet, oui.
Donc mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très contraignant comme bénévolat. Donc vous pouvez aller sur notre site internet qui est parrainmarraine.com.
Parrainmarraine.com, oui.
Voilà. Ou parrainagecivique.com. En fait, on a acheté tous les noms de domaine.
Oui.
Ou sinon, au numéro de téléphone gratuit, qui est 1-877-PARAIN, P-A-2-R-A-I-N.
Mm-hmm.
Mais en gros, c'est 727-7246.
Ah, mais c'est bien ça. 1-877-PARAIN, ça se retient bien, ça.
Ouais, ça se retient bien, ça. Ouais, c'est pour ça que je le garde.
Bon, ben oui, ben oui, ben oui.
La ligne gratuite, là.
Non, non, mais c'est bien. Oui, 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 vous avez raison. Donc, 1-877 par an, ça fonctionne et c'est facile. Si vous, qui êtes de l'autre côté des ondes, vous avez envie, vous aussi, de devenir parrain, ou si vous aussi, malheureusement, vous auriez peut-être besoin d'avoir un parrain ou une marraine auprès de vous, eh bien, c'est le numéro à contacter. Locke, je sais que ça passe toujours très vite, mais là, j'imagine que vous allez rentrer chez vous. Et...
Non, même pas. Non, même pas. Je reste au bureau, ça va, je suis OK, je suis opérationnel.
D'accord. Parfait, Locke. Alors, Locke Corrie, directeur du regroupement québécois du parrainage civique. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé encore aujourd'hui. Je
Merci,
vous souhaite une belle...
Deal.
De rien, Locke. Bonne journée. Salut, bye.
Bye.
Au Nouveau-Brunswick, d'après le site de ICI Radio-Canada, Nouveau-Brunswick, l'ONF a l'air de la réalité virtuelle en Acadie, écrit Amélie Gosselin. L'Office national du film est en plein tournage à Grande Digue au Nouveau-Brunswick pour un premier documentaire en réalité virtuelle. La réalisation du film La troisième roue a été confiée à André Roy. Le film, de 5 minutes, permet de suivre les sœurs Renelle et Alissa Béliveau, toutes deux atteintes de dystrophie musculaire, dans leur cours d'éducation physique à l'école de Grande Digue. Le documentaire raconte l'initiative de l'enseignant d'éducation physique Réa Lébert et de la direction de l'école qui ont mis sur pied un programme de parasport en procurant des fauteuils multisports à tous les élèves du cours d'éducation physique dans le but d'intégrer les deux sœurs handicapées. Puisque le film est tourné en réalité virtuelle, la troisième roue offre la perspective de la personne assise dans le fauteuil roulant qui joue, entre autres, au basketball. Le spectateur sera comme un participant, la sensation change complètement. Le studio de la francophonie canadienne Acadie de l'Office national du film est très emballé par le projet. Le producteur Jacques Gautreau explique que c'est une nouvelle façon de raconter des histoires et ça fait partie du mandat de l'ONF. On veut faire partie de ceux qui vont définir la grammaire de cet univers-là. C'est une histoire où l'on voulait immerger le spectateur dans une expérience. En réalité virtuelle, il n'y a pas de cadre, on regarde où on veut. C'est beaucoup plus expérientiel. Le film La troisième roue devrait sortir à la fin du mois de mai. En France, et c'est sur le site internet Pleine Vie à Paris lance de nouvelles mesures pour les personnes handicapées. Écrit Alexandra Tisiot, la mairie de Paris propose un plan en faveur des handicapés lundi le 27 mars au Conseil de Paris. Cette nouvelle stratégie s'étendra jusqu'en 2021 et elle a pour but de rendre la ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Si la France compte près de 10 millions de personnes plus ou moins dépendantes, les villes sont rarement adaptées à leur manque de mobilité. Pour pallier à cette situation, la mairie de Paris présente ce lundi, donc c'était lundi dernier, le projet Handicap, Inclusion et Accessibilité Universelle 2017-2021. L'un des objectifs de ce plan, qu'il y ait zéro Parisien sans solution d'accompagnement. Pour Éric Azière, le président du groupe UDI Modem du Conseil de Paris, ce plan doit s'étendre aux transports en commun peu adaptés, semble-t-il, aux personnes en situation de handicap. Voilà, c'était les paractualités en ce 30 mars 2017, présentées pour vous par Clotilde Sey sur Canal M, qui remercie son équipe, Mathieu Tessier et Martin Forgue. Passez une très belle journée. Je vous retrouve pour les paras lundi prochain à 11h30.